Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter parce que je ne connais pas tout le monde. Alors, je m'appelle Théo Marchal, je suis architecte, je suis enseignant-chercheur ici à l'école d'architecture de Grenoble et donc au laboratoire Cresson. J'ai soutenu une thèse en 2021, fin 2021, j'allais dire ça fait un an 2021, ça fait deux ans, mais c'est fin 2021. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an. Sur les questions justement de conception avec le son, donc comment prendre en compte le son dans la conception architecturale et spatiale au sens large, en développant plus particulièrement un outil numérique. Mais ce n'est pas le sujet de la discussion qu'on va avoir là. Mais c'est important pour la suite, vous allez voir, il y a quelques éléments qui émergent de ça. Alors, par ailleurs, je suis musicien aussi, pour finir la présentation, par ailleurs, je suis musicien, c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressé au sonore, et d'essayer de connecter à la fois mon intérêt pour l'espace et mon intérêt pour le son, et voir comment ça pouvait s'alimenter l'un et l'autre. La thématique de l'école diverse, c'est donc la question de la densité, pour vous, la densité sonore et les sons de la densité. Et donc, j'ai voulu reprendre un petit peu des choses sur lesquelles j'avais travaillé il y a un petit peu de temps maintenant, qui me semblent assez bien résonner avec ces questions de la densité, c'est les questions de proche et de lointain sonore. Alors, pourquoi le proche et le lointain sonore? Pourquoi ce lien avec les questions de densité? Vous allez voir, il y a des liens assez, on va dire, simples, assez évidents, et puis d'autres peut-être un peu plus tirés par les cheveux, mais je trouve que ça fonctionne assez bien de se poser cette question du proche et du lointain sonore quand on interroge la densité construite, la densité habitée. Déjà, dans un premier temps, et c'est l'angle que j'avais beaucoup abordé moi à une époque, dans un premier temps, quand on parle de densité habitée, de densité bâtie, nécessairement, on va mettre en place de l'habitat en hauteur. Alors, qui dit hauteur, c'est pas forcément des IGH, c'est-à-dire des immeubles de grande hauteur, hein, ça peut être simplement du R+1, R+2, R+3, etc. Mais donc nécessairement, on va commencer déjà à se décoller du sol. Et donc quand on se décolle du sol, quand on se détache de l'emprise en rez-de-chaussée, on va dire, enfin en tout cas au sol, quoi, nécessairement, on va commencer à avoir une certaine prise de distance par rapport à ce sol-là, et donc par rapport à l'environnement sonore qui vient du sol. Et donc se pose déjà la question du proche et du lointain sonore sur le rapport au sol et le rapport au son domestique, au son de l'habitat, qui eux, pour le coup, ne s'éloignent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils restent toujours à peu près à la même proximité avec nous, et on prend une distance par rapport à l'environnement sonore urbain ou rural d'ailleurs, mais qui vient du sol. Donc selon la situation, cette question de proche ou lointain sonore, elle est intéressante à faire résonner avec la densité. Un autre point, donc celui-là il est assez évident pour moi, un autre point qui est quand même assez évident aussi, c'est que plus vous allez placer ou générer de densité, plus vous allez avoir dans l'environnement sonore, dans l'écoute au quotidien, de la proximité sonore immédiate. Et donc, cette proximité sonore immédiate, elle va aussi installer des calques ou des couches de distance entre les événements. Donc ça va, entre les événements sonores, c'est-à-dire que ça va instaurer un rapport relatif entre le son domestique du foyer, le son du foyer attenant, et puis éventuellement celui d'en face, celui d'en bas, celui d'au-dessus, etc. Et donc vous voyez qu'on commence à se construire une scène sonore, on va dire ça comme ça, on se construit une scène sonore à partir de la densité. C'est-à-dire que plus on habite ensemble, et ben plus on a de sons de l'habiter ensemble. Que ce soit habité, que ce soit des activités, ça peut être aussi des activités socio-économiques, ça peut être des déplacements, des transports, etc. Tout ça, plus il y a de densité, plus il y a d'activité, et donc plus il y a d'émergence sonore. Et puis un autre point qui me semble intéressant, alors en faisant attention, c'est toujours la difficulté avec cette question du proche et du lointain sonore, hein, tout le temps se pose la question du parallèle délicat. En tout cas, moi, je le trouve délicat, mais c'est une question qui se pose. Je vais vous dire, hein, mais je vais vous expliquer après. Mais là, ce que je vous explique là, et notamment l'effet de distance dont on va parler après, c'est vraiment une proposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Je vous présente pas quelque chose de fini, etc. C'est une proposition de réflexion. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de délicat dans cette proche et lointain sonore, c'est le calque ou le mimétisme qu'on pourrait faire avec la vue, de dire, bah voilà, on travaille en plan, et donc on a le rapport figure-fond, etc. Le son ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et donc on a souvent tendance à faire ce raccourci, à dire, bah voilà, il y a des plans sonores, alors qu'en fait c'est beaucoup plus imbriqué, et beaucoup plus tissé entre les sons très proches et les sons très lointains. Et c'est aussi ça qui est très intéressant quand on interroge le proche et le lointain sonore, c'est justement les interrelations entre ces mondes qui sont moins possibles avec la vue. Et donc ce que je disais avant de digresser là-dessus, c'est que voilà, on a de plus en plus d'activités et souvent aussi elles sont de plus en plus déportées. C'est-à-dire que plus il y a de densité, moins les activités vont être localisées autour de l'endroit où on habite, mais plus on va déporter les choses. Et donc on va devoir parcourir aussi de la distance pour aller faire certaines activités. Mais donc à l'écoute, on va entendre à distance. Notamment, je pense à quelque chose qui est assez évident, la question des transports. Quand vous habitez une ville dense, ben les sons des transports, alors ils peuvent passer très près, dans un maillage proche, mais les maillages plus lointains, comme les réseaux de transport plus territoriaux, régionaux, que ce soit les trains, les voies routières, type autoroute ou grosses départementales, etc., elles vont se mettre de plus en plus à distance. Et donc ça va créer aussi des plans sonores qu'on retrouve moins, en tout cas, dans un milieu moins dense. On les retrouve aussi, mais de manière moins marquée, quoi. Donc voilà pourquoi le lien entre proche et lointain sonore et cette thématique qui vous occupe cette semaine de la densité sonore et des sons de la densité. Je trouve que ce parallèle est intéressant. Densité sonore et son de la densité, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Alors, avant d'entamer vraiment la question dont je voulais parler, il y a un autre point qui me paraît important, dont j'ai un petit peu évoqué là, c'est les échelles de perception. Donc, je vous disais, c'est assez imbriqué. En fait, quand on pense à l'expérience sensible, qu'on fait d'un lieu, on est des corps humains. Et donc l'expérience sensible qu'on fait d'un lieu, elle va se faire par le corps, et donc nécessairement par l'échelle du corps. On va appréhender un espace, quelle que soit son échelle, par l'échelle de notre corps. Et donc c'est une référence d'échelle qui est fondamentale, parce qu'en fait notre corps, c'est l'analogie, c'est une sorte de groupement de capteurs, quoi. On récupère un certain nombre d'informations thermiques, tactiles, visuelles, olfactives, sonores, etc. Et puis d'autres, un peu moins, le sens des masses, par exemple, etc. qui font que, par notre corps, on va capter l'environnement. Et ce rapport d'échelle, il est intéressant avec le son. Donc, je vous disais, c'est intriqué. On ne peut pas trop détacher les choses. C'est que par notre corps à l'échelle très proche, on va pouvoir appréhender du très lointain, du très grand territoire, etc. Donc un des exemples que j'ai mis là, c'est une installation, alors je ne sais pas si à l'époque elle tournait un peu, en 2012, je ne sais pas si elle tourne toujours, si elle a été installée définitivement quelque part. Je ne sais pas si vous connaissez cette installation, elle a pas mal été diffusée à une époque. C'est une sorte de harpe aérolique qui fonctionne en fait. C'est une harpe qui entre en vibration avec le vent, et avec un mécanisme de tube un peu comme un orgue, ça va amplifier, donner à entendre ces vibrations sonores à l'intérieur de l'arche. Ah oui, pardon, c'est pas la bonne image. Hop. Vous voyez, c'est une arche. Donc déjà l'objet en lui-même, il a une certaine échelle. Donc il implique un rapport au corps qui est différent, et puis il y a cette sorte de focale, on rentre dedans, on se positionne à l'intérieur, et il y a une focalisation spatiale, visuelle et surtout sonore. Et ce que je trouve intéressant, mais on va juste écouter un petit extrait, c'est justement ce rapport entre le très proche, presque la micro-expérience, quoi, c'est vraiment très localisé, et cette micro-expérience du son qui permet justement d'illustrer le très grand, le grand territoire, l'aérolique, le vent qui traverse. Donc c'est une métaphore un peu artistique, hein, mais je trouve que c'est un bon exemple de cette question du proche et du lointain. Alors est-ce que ça va marcher ? Voilà, donc c'est un extrait très court. Alors après, si vous pouvez, aller vous taper dans SoundCloud, vous tapez Aerolus, c'est la référence qu'il y a, vous tapez Aerolus Duc Jérôme, et vous avez, je crois qu'il y a une bonne heure d'enregistrement. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui jouent avec les tubes, qui chantent dedans, etc. Et donc là, on a vraiment aussi cette intrication entre le très proche, le corps, et puis le très lointain, le vent. Alors, on va la refaire rejouer une deuxième fois. Voilà. Là où je voulais en venir avec ça, c'est l'effet de distance. Alors, la question de la distance et pourquoi l'effet. Alors, pour la petite histoire, c'est aujourd'hui, on devait parler à deux voix et finalement, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Et donc, on s'était un peu dit, tiens, on va parler de nouveaux effets. Alors, je vais vous expliquer pourquoi effet, même si j'anticipe un peu sur des choses qui sont dites dans la semaine. Mais on avait l'envie de parler de nouveaux effets en rapport avec la question des effets sonores, donc je vais juste vous présenter un petit peu les choses juste après. Et donc l'idée pour moi, c'était de faire une sorte d'esquisse de ce que pourrait être l'effet de distance. C'est un travail un peu en cours, on va dire, et donc c'est pour ça que je dis que c'est une esquisse d'effet. Qu'est-ce que j'entends par effet ? Alors peut-être qu'il y en a certains à qui ça parle déjà, on a peut-être déjà parlé. Et puis comme je dis, je ne veux pas anticiper sur... Il y a une présentation complète là-dessus qui vous sera faite mercredi, jeudi, je ne sais pas. Jeudi, voilà. Mais simplement, pour vous expliquer de quoi on parle, pour juste situer les choses, en fait, ça vient du répertoire des effets sonores, donc qui est un ouvrage qui a été... élaboré au laboratoire Cresson, qui est un peu presque fondateur de beaucoup de notions sur le sonore Cresson, et qui s'organise, donc c'est comment caractériser ou qualifier la perception sonore quotidienne à travers une série d'effets. Je le fais très rapidement pour ne pas empiéter, mais voilà, il y a cinq grandes catégories: les effets élémentaires, les effets de composition, les effets mnémoperceptifs, psychomoteurs et sémantiques. Et vous voyez, il y a une série d'effets, les élémentaires, vous les connaissez sûrement, parce qu'ils font aussi référence à des effets musicaux, on va dire. Et puis les autres, voilà, effets de composition, c'est des agencements sonores. Les effets mnémoperceptifs, ça va être plutôt des effets liés à la perception et aux transformations psychoacoustiques qu'on peut en faire. Les effets psychomoteurs, ça va être tous ceux qui vont impliquer une action, qu'elle soit sonore ou mobile, mais voilà, une action de l'entendant. Et puis les effets sémantiques, c'est tous ceux qui jouent sur des écarts de contexte ou des écarts de signification, pour faire simple. Mais je passe très vite là-dessus. Ce qui nous intéresse ici, et pourquoi je vous présente ça, c'est que donc voilà, on a une série d'effets. Là, ils n'y étaient pas tous, hein, il y en a plus que ça. On a une série d'effets qui permettent de qualifier l'environnement sonore. Et donc c'est un outil vraiment puissant en fait, pour qualifier, analyser, mais aussi projeter. C'est-à-dire se dire, bah, tiens, je veux produire tel type d'effet, ou il existe tel type d'effet et je voudrais le réduire ou l'amplifier, etc. Donc dans la dimension prospective qu'on a vue juste avant, dans la présentation juste avant, ça, c'est un outil qui peut être très riche, parce que justement il permet de parler du son sans, en sortant des qualificatifs on va dire habituels du bruit, du fort, du pas fort, etc., mais d'aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire le son dans l'espace, que ça veut dire le son dans le vécu quotidien, et qu'est-ce qui compose l'environnement sonore dans lequel on vit. Parce que bien sûr, ces effets, ils ne fonctionnent pas seuls, ils se groupent, ils se combinent, et ils construisent l'environnement sonore. Là, l'idée, ça serait d'en proposer un nouveau. Donc, à la base, on peut en proposer deux nouveaux et discuter. Le second, qui est un petit peu plus développé, c'est l'effet justement de densité, dont je ne vais pas parler ici, parce que je maîtrise moins. Et moi, je vais essayer de vous parler de l'effet de distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce répertoire des effets sonores, il y a une sorte de vrai travail sur le fait de travailler avec différents champs disciplinaires pour qualifier les effets. C'est-à-dire d'essayer de ne pas souffrir soit d'une lacune qui serait uniquement quantitative, soit d'une lacune qui serait uniquement qualitative, mais d'aller chercher un peu dans toutes les disciplines pour à la fois qualifier... le sonore dans le champ des sciences humaines, les perceptions, les pratiques, etc. Dans le champ de la conception spatiale, donc pour faire vite, architecture et urbanisme, donc essayer de comprendre comment l'espace, comment la matérialité de l'espace, comment la mise en place des matériaux et des usages va directement façonner, transformer ou fabriquer des effets. Et puis la dernière grande catégorie, s'il y en a d'autres, hein, mais la dernière grande catégorie, c'est plutôt le champ, on va dire, technique, entre grands guillemets, ou en tout cas de l'acoustique appliquée, et qui lui va chercher à expliquer, quantifier, qualifier des processus physiques de propagation du son. Propagation, modulation, transformation des sons qui génèrent ou qui influencent sur les effets qui sont dégagés. Après, il y a d'autres catégories plus ou moins proches de ces trois grands axes. J'ai volontairement fait le choix de simplifier à trois grands axes pour moi ensuite que ce soit plus simple à vous faire l'esquisse des effets de distance. Mais vous allez aussi avoir sur certains effets, pas tous, des angles plutôt artistiques, musicologiques, psychoacoustiques aussi, etc. Donc, voilà, chaque champ s'élargit un petit peu ou se diminue selon le type d'effet qu'on va essayer de qualifier. Donc dans le répertoire, vous imaginez bien que quand on parle d'un effet mnémoperceptif, il va y avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de réflexions dans le champ sciences humaines, psychosociaux, etc., que en acoustique appliquée, où ça va être beaucoup plus difficile d'alimenter un effet mnémoperceptif qui vient plutôt de notre perception que vraiment des réalités matérielles et tangibles de l'espace. Quoique, mais bon. Voilà, pour faire très rapide sur la question des effets sonores. Et donc, la proposition de l'effet de distance, elle vient d'où ? Elle vient, donc, je vous l'ai dit, j'ai développé un outil d'esquisse sonore qui s'appelle Esquisson pendant ma thèse. Et en développant cet outil, donc c'est un outil pour faire court pour ceux à qui je n'ai pas déjà expliqué, parce que je répète ce truc tout le temps, donc je ne sais plus ce que j'explique, ce que je n'explique pas. Pour faire court, c'est un outil qui permet d'écouter ce qu'on dessine. Donc en gros, vous dessinez dans un modèle 3D, des morphologies, etc. Et vous pouvez écouter en plaçant des sons et en vous plaçant dans le modèle, vous pouvez écouter ce que vous dessinez en direct. L'idée étant de s'affranchir un petit peu des retours quantitatifs, lancer de rayons, temps de réverbération, intensité en décibels, etc., qu'on a un peu parfois du mal à manipuler, qui parfois font l'impasse justement sur des questions plutôt perceptives. Et donc là, l'idée, c'est de faire confiance à nos oreilles, à vos oreilles, et de dessiner en écoutant. Et en se disant qu'en écoutant, on va être capable justement d'appréhender toutes ces questions, y compris les questions quantitatives. Et donc, en développant cet outil-là, j'ai dans la méthodologie, je me suis dit, tiens, je vais mettre en place un peu dans l'idée du solfège des objets sonores, si vous connaissez, je vais mettre en place un solfège de l'outil. Et donc, je vais réfléchir à tout ce qu'il est possible de faire avec l'outil et qu'est-ce qu'on peut construire comme briques sonores. Et en fait, petit à petit, ça m'a vite emmené vers la question des effets sonores. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais jouer à m'amuser à reproduire les effets sonores du répertoire. Donc, pas tous, hein, y en a que ça ne marche pas. Mais en gros, une grosse partie de ce que je vous ai montré. Et puis, en faisant ça, je me suis rendu compte que... Donc l'idée, c'était d'arriver à reproduire par des variations morphologiques dans un modèle 3D en écoutant, morphologique, matériel, de positionnement d'usage, de configuration spatiale, etc., d'essayer de reproduire une partie des effets sonores. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait j'ai vu apparaître ce que j'ai appelé des nouveaux effets. Alors, il y en a qui sont plus ou moins cohérents, il y en a qui sont plus ou moins justifiables, etc. Mais parmi eux, il y a cet effet de distance. Et donc je trouvais intéressant de parler aujourd'hui parce que ça correspond, comme je vous l'ai dit au début, à la thématique de la densité. En tout cas, c'est un des effets qu'on pourrait mobiliser dans la densité. Donc si on fait l'exercice, après on va écouter des choses, hein, parce que c'est bien si on écoute des exemples, mais si on fait l'exercice de dire, bah, tiens, c'est quoi l'effet de distance, en reprenant les trois calques, ou les trois grilles, ou les trois lignes de lecture dont je vous ai parlé avant, caractérisation sociale, bon, psychosociale, on pourrait dire, spatiale et acoustique. Bon, je l'avais mis là. Hop, parfait. On peut essayer de se projeter là-dedans et de faire le travail de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire à partir de ces trois caractérisations. Déjà, si on regarde la caractérisation acoustique, qu'est-ce que ça veut dire la distance d'un point de vue acoustique ? Il y a un premier point. Quand un son prend de la distance, ou quand vous prenez de la distance avec un son, c'est qu'il y a un impact sur le niveau sonore. Ça, c'est un fait, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez d'un son, plus il va perdre en intensité. Et donc plus on est à distance, plus il va être faible, d'un point de vue perceptif, mais d'un point de vue aussi quantitatif. Vous mesurez, vous prenez un sonomètre, vous positionnez une source, et vous vous éloignez, et plus vous vous éloignez, plus le niveau de pression acoustique dans le sonomètre va baisser. Et la règle pour ça, c'est qu'en fait, pour une source linéaire, comme pour une source ponctuelle, mais pour une source linéaire, à chaque fois que vous doublez la distance, vous perdez 3 dB. Donc, c'est-à-dire, vous vous éloignez d'une source, d'une distance D pour perdre vos 3 décibels. Après, il faudra vous éloigner d'une distance 2D pour perdre à nouveau 3 décibels, puis après 4D, puis après 8D, etc. Petit à petit, on perd de plus en plus de décibels. Donc, plus on s'éloigne, plus on perd en intensité sonore. C'est la première réalité acoustique. Une deuxième réalité, c'est que avec la distance, il y a un effet de filtrage. Alors, c'est un petit peu lié à la question du niveau sonore. Un filtrage, c'est juste une atténuation de niveau sonore selon la fréquence. Et donc, ou une augmentation, mais en tout cas une modulation du niveau sonore selon la fréquence. Et donc il y a un effet de filtrage qui s'opère. Je reviens à mon point A. Donc distance et niveau sonore et distance et filtrage. Et en fait, de quoi vient ce filtrage? Vous devez vous rendre compte que quand vous éloignez d'une source, elle est de plus en plus, grave. Il y a de moins en moins d'informations dans les aigus. Elle est de plus en plus... comme si... quelqu'un vous parle, vous imaginez pouvoir vous éloigner de 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Donc, s'il parle suffisamment fort pour qu'on puisse continuer à l'entendre, on va de moins en moins entendre les sons aigus provenant de sa voix. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'absorption atmosphérique. Alors, l'absorption atmosphérique, c'est un terme qui englobe plusieurs phénomènes physiques. C'est un peu compliqué, il y a des questions de viscosité des fluides, il y a des questions d'échange entre les molécules d'air, etc. Mais l'idée, c'est que cette question d'absorption atmosphérique, c'est de dire qu'en fait, plus on s'éloigne, plus les sons aigus vont être absorbés par l'air, tout simplement. Il y a en fait une corrélation, c'est même proportionnel, l'absorption atmosphérique et le coefficient de diminution par rapport à la fréquence. C'est la courbe que vous voyez sur la gauche. Alors il y a plusieurs courbes, parce que ça dépend aussi de l'humidité de l'air, du taux d'humidité de l'air, mais en gros, vous voyez, la courbe, elle monte, elle est assez proportionnelle, et donc, en abscisse, vous avez les fréquences, et en ordonnée, vous avez l'absorption. Et donc, plus on est haut en fréquence, plus c'est absorbé, à une même distance. On peut aussi, je vais peut-être vous montrer l'exemple tout de suite. Si je passe ça, donc je voulais juste vous montrer, si on dit ok, ça c'est des réalités acoustiques, on a le niveau sonore et le filtrage, c'est-à-dire la fréquence. On va écouter, je vais baisser un peu, j'ai plus de batterie, ouais, ça pose un problème. Donc on va écouter trois pistes sonores mises ensemble. La première, c'est un fond urbain, une sorte de drone urbain un peu grave. La deuxième, c'est des enfants qui jouent dans un parc. Et la troisième, c'est une fontaine. Ici, là, dans la première organisation, ils sont tous joués à niveau à peu près égal. Alors, il y a juste le fond urbain qui est un petit peu augmenté parce qu'il était un peu plus faible que les autres, mais celui-là, il ne bougera plus. Donc celui-là, il est fixe. On a un niveau de base. Et donc là, si je joue les trois en même temps, on va se mettre, ici. Enfin, on va se mettre au début à chaque fois, ça sera mieux. J'espère que c'est pas trop fort, parce que là... Voilà, donc là c'est vraiment ça n'existe pas vraiment, c'est un montage complètement artificiel de trois sources mises bout à bout. Enfin, côte à côte, plutôt. Cette fois, on va écouter la même chose, mais ici, on est... Ah, pardon. Ouais, en fait, je fais d'un mauvais sens. Vous venez d'écouter la version où on avait éloigné artificiellement le jeu d'enfant. C'est-à-dire qu'on a appliqué un filtrage. Si je vous montre le filtrage qu'on a appliqué, si vous pouvez bien le montrer.
Ah oui, il l'affiche sur l'autre écran.
On a appliqué un filtrage dans les aigus.
Au jeu de l'enfant, plus on a diminué légèrement l'intensité sonore. Donc on a fait ce que je viens de vous dire, on l'a éloigné artificiellement.
On a appliqué les règles acoustiques combien de fois ?
si je réécoute donc maintenant cette fois sans aucun, sans aucune transformation, la même chose. Ils sont artificiellement beaucoup plus proches en fait. Ils sont beaucoup plus proches. Je vais remettre celui-ci. Et maintenant, on va remettre le jeu d'enfant, on va enlever le filtrage, remettre son volume. Alors le jeu de volume, il n'y a quasiment pas de changement, hein. Il y a un petit peu de changement, mais le filtrage enlève déjà beaucoup d'intensité. Donc pour ne pas le mettre très très loin, qu'on puisse l'entendre quand même, il y a très peu de changement. Et puis maintenant, on va écouter la même chose, mais cette fois, c'est la fontaine qu'on va éloigner. Mais tout à l'heure, on était quasiment dans l'eau. Et là, on sent qu'elle est quelque part, mais elle est un peu plus loin. Et puis on va accentuer ça en disant, bah tiens, alors là le stéréo inversé, mais je vais mettre la fontaine d'un côté, vous voyez elle se retrouve plutôt ici parce que là, le branchement n'a pas été fait dans le même sens. Donc on rééloigne encore plus en spatialisant. Ça c'est juste pour illustrer les effets acoustiques vraiment. Voilà, c'est tangible, quoi. On a baissé un volume ou on a appliqué un filtrage et on a une sensation d'éloignement. En plus de ça, en plus de ces paramètres de base-là, on peut ajouter différentes choses, par exemple la présence de masques, qui fait que bah, forcément on va atténuer une partie, on va diminuer le niveau sonore. Donc les masques, ça peut être des masques bâtis, ça peut être aussi une topographie territoriale, etc., qui fait que bah, forcément vous avez un relief, vous allez avoir une atténuation. Il y a la question de la réverbération aussi, que je vais moins aborder, mais elle va pouvoir changer, donner de la portée à du son, la faire porter plus loin, etc. Et puis, il y a aussi un impact climatique, météorologique. Ça, c'est important de comprendre que si on reste dans l'acoustique appliquée, hein, la température de l'air, notamment, c'est un facteur très très important sur la propagation du son à distance. On sait que la vitesse du son est proportionnelle à la température de l'air, et en fait, quand il y a des gradients de température, c'est-à-dire le sol est plus chaud que l'air ou l'air est plus chaud que le sol, on va avoir des gradients de température, c'est-à-dire que bah, il va y avoir une différence de température dans le milieu, et ça va provoquer, c'est ce que vous voyez ici, quand il y a un gradient positif des températures, il y a donc un gradient positif de la vitesse du son, et vous voyez que la trajectoire des rayons acoustiques va plutôt avoir tendance à être rabaissée. Alors qu'à l'inverse, quand le sol est plus froid que l'air, ça c'est des choses qui arrivent par exemple la nuit. Donc là, on parle vraiment d'air haut et de sol bas. Quoi. On n'est pas sur des distances de 5 ou 10 mètres, hein, c'est un peu plus. Quoi. À l'inverse, on va avoir du son qui va avoir tendance à monter. Et ça va énormément jouer sur la propagation du son à la distance. Parce que forcément, vous imaginez bien qu'un front d'onde qui monte, il peut porter plus loin qu'un front d'onde qui descend. C'est valable aussi quand vous avez du vent, un vent de face ou un vent de dos, bah forcément ça va rabattre ou faire remonter le front d'onde. Et donc votre voix va, par exemple, si vous parlez face au vent, votre voix va porter moins que si vous parlez avec le vent dans le dos. Et donc ça, c'est des phénomènes acoustiques qui vont jouer sur l'effet de distance. Donc je passe un peu vite parce que le temps passe aussi. Maintenant, si on essaye de regarder les caractérisations sociales, j'ai mis trois grands thèmes qui émergent, notamment d'entretiens que j'ai pu faire avec des gens qui habitent dans de l'habitat en hauteur, et puis aussi dans les ateliers qu'on a pu faire avec l'outil Esquisson, c'est-à-dire que quand on manipule de la distance, il y a des effets qui apparaissent. La première perception, on va dire, c'est cette notion d'échappement. C'est-à-dire une sorte d'impression de sortir du contexte, de s'échapper. Et notamment, bah là c'est plus la question de l'habitat en hauteur, mais on prend de la distance avec le sol, et du coup cet effet de distance, il va produire une sensation d'échappement par rapport à ces sons au sol, parce qu'on prend de la hauteur. On prend aussi de la distance avec ce qui est plus loin, et parfois ça s'inverse, c'est-à-dire que ça peut aussi permettre de gérer des rapports d'intimité. Se projeter dans le lointain, c'est s'échapper du contexte proche. Vous voyez, donc c'est cette question d'échappement est vraiment intimement liée au proche et au lointain, parce qu'on peut aussi se projeter dans le lointain et reconstruire une intimité artificielle, enfin en tout cas
qui n'est pas réel physiquement de manière tangible, on reconstruit une intimité en se projetant dans le son lointain. Il y a une autre caractérisation qui serait la délimitation. Alors ça, c'est assez évident quand on y pense, mais finalement, c'est très très intéressant. En fait, le proche et le lointain sonore, l'effet de distance, va avoir tendance à gommer un biais qu'on a souvent, c'est de faire de la différenciation par source. Souvent, quand on parle du son, quand on s'intéresse au son, on va différencier le son par source. On va différencier, bah voilà, j'entends une moto, j'entends la ville, j'entends les oiseaux, etc. Quand on accentue l'effet de distance, on retrouve chez les habitants une sorte de... Ils ont plutôt tendance à délimiter les sons, donc à les positionner dans l'espace. Et donc le son de la ville et le son de la ville vont être différenciés, parce qu'il y a le proche et le lointain. Il y a la circulation qui passe en bas et puis la circulation qui passe au loin. Et en fait, c'est de la différence de sonorité que l'habitant caractérise, fait une différenciation entre le proche et le lointain. Et donc pas par la source. Il ne différencie pas parce qu'il entend une moto ou il entend un tram. C'est parce que le son n'a pas la même consistance quand il est proche et quand il est lointain. Pareil, j'essaye de passer un peu vite, mais il y a la question de distance réelle, distance perçue. C'est-à-dire la distance réelle des objets sonores qui va coexister, qui va renforcer ou non une distance perçue, une distance imaginée. C'est-à-dire que quand on se met à distance d'une information sonore, on peut se mettre à distance d'une information sonore d'un point de vue subjectif. C'est-à-dire qu'une information sonore qui est loin, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, se projeter dedans. Cet événement sonore, on va se projeter dedans. Et donc, on va opérer une différence entre distance réelle et distance perçue. Ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve. Alors, à chaque fois, c'est des effets qu'on retrouve. Hein. C'est des effets qu'on retrouve, des effets sonores qu'on retrouve, notamment l'effet de synecdoche et d'asyncète, c'est-à-dire c'est un état de préparation pour soit se focaliser sur un son, soit ignorer un son. Vous voyez, cet effet-là, alors un effet très connu, peut-être que vous en parlerez, mais c'est l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est typiquement ça. Alors, ça a été mis en avant par un cognitiviste qui s'appelle Colin Sherry dans les années 50. Bon, en fait, il a fait une expérience avec des casques et il mettait deux conversations différentes dans l'oreille gauche et l'oreille droite des gens. Et il leur disait, vous vous intéressez à cette conversation-là, c'est celle-là qui vous intéresse. Et à la fin de l'expérience, il leur posait des questions sur l'autre piste sonore. Et en fait, personne n'était capable de donner, de vraiment clairement identifier ce qui se passait dans l'autre oreille. Par contre, il savait répondre à des questions un peu simples. Est-ce que c'était une voix d'homme? Est-ce que c'était une voix de femme? Est-ce qu'il parlait lentement, doucement, etc. Donc, on a une attention, mais une attention qui est sélective. Et donc, cette attention sélective, elle est aussi valable dans la question de la distance. On peut être très proche d'un son, parce que d'un point de vue affectif, d'un point de vue socioculturel, etc., on s'en sent proche. Et donc, dans le rapport proche et lointain, on transforme les distances, le rapport entre distance réelle et distance perçue. Et puis, la dernière caractéristique qu'on a vue, donc acoustique, j'ai mis social, mais c'est psychosocial, quoi, et puis spatial, caractérisation. Donc là, tout ce qui va être de l'ordre de l'architecture et de l'urbain, donc là aussi, hein, ça va vite, mais c'est une esquisse de proposition. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, j'en ai parlé, le rapport à la hauteur. Donc l'édifice et la hauteur. Donc là, vous voyez, c'est une des trois tours, ça va être la tour Mont-Blanc, celle-là. Donc là, on est dans un IGH, donc immeuble de grande hauteur, donc on monte très très haut, donc on s'extrait énormément du territoire au sol, et en même temps, paradoxalement, on se projette dans le territoire lointain. On entend des choses qu'on n'entend pas quand on est au sol, etc. Mais comme je disais, c'est valable aussi en R+3, R+4, R+5. En fait, finalement, par rapport à l'échelle du corps, si vous êtes en R+3 ou R+4, la distance au sol, elle est quand même énorme. Et donc le rapport au son aussi, il est quand même vraiment différent de quand vous êtes au sol. L'autre caractéristique spatiale, ça va être tout ce qui est rapport de densité, c'est-à-dire j'en ai parlé aussi un petit peu, mais dans la proximité, dans la densité des usages, qu'est-ce que ça va impliquer, des densités d'usages différentes, plus de proximité entre les choses, entre les événements, plus de repères sonores aussi dans la ville. Donc des repères qui vont être domestiques, des repères d'activité, des loisirs, des déplacements, des transports, etc. Donc plus le fait de densifier
de faire en sorte que les événements sonores soient plus proches les uns des autres, ça va impliquer plus de repères sonores, et donc ça c'est aussi une configuration, c'est aussi lié à une configuration spatiale, c'est-à-dire que quand vous approchez les édifices les uns des autres, ou les équipements les uns des autres, ou les espaces de transport les uns des autres, et ben, en ramenant de la densité, on pourrait presque dire fonctionnelle, fonctionnaliste, ben, on ramène aussi de la densité sensible. Et puis le dernier, en tout cas dans la liste des trois que j'ai mise en avant là ici, la dernière caractéristique spatiale, ça serait tout ce qui est dégagement et ou continuité. Quand je dis dégagement, ça va être, on n'est pas forcément en hauteur pour écouter dans le lointain. Par exemple, un grand horizon, dans une ville où vous avez un fleuve très large, par exemple, vous êtes au bord d'un fleuve très large, et bien vous avez un énorme dégagement, un grand horizon devant vous, et donc forcément ça vous projette beaucoup plus dans des rapports de distance qui sont beaucoup plus forts. On peut aussi faire cette expérience-là avec des axes larges, des boulevards très larges, ou des ruptures de densité. Par exemple, si vous êtes dans une zone très dense qui tout d'un coup devient peu dense, et ben, y a un dégagement qui s'opère nécessairement, qui fait que l'effet de distance va être beaucoup plus prégnant. Dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai mis dégagement et ou continuité, c'est que vous avez aussi les morphologies de type canyon, couloir, etc., où là justement la portée des sons va être modifiée par les effets de réverbération. Volontairement je fais l'impasse là-dessus. Et là aussi ça va accentuer, mettre en avant l'effet de distance, parce que forcément je pense à une rue à Stockholm comme ça qui est très, très peu dense en fait, mais ça, elle fait un effet canyon, et en fait on entend très bien les sons à l'autre bout, même si c'est des tout petits sons domestiques, c'est des enfants qui jouent, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte de voiture, etc. Mais c'est à 200 mètres, quoi. Et on l'entend très très bien parce que c'est porté par la morphologie urbaine. Et on est capable de positionner ça dans l'espace aussi du fait de la quantité de réverbération par rapport au son direct, etc. Là aussi, il y a des explications d'acoustique derrière. Voilà, je vais essayer de vous faire écouter quelques exemples. Je vais aller assez vite. J'ai quelques exemples à vous faire écouter.
10 minutes, puisque tu as 10 minutes.
Génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, on va écouter quelques exemples pour mettre un peu de son dans tout ça. Alors, j'espère que ça sera assez fort. On va commencer par, c'est un peu par là que j'ai commencé, même si en réalité il y a des choses dont je vous ai parlé qui sont antérieures à Esquisson, mais on va commencer par deux sons qui ont été produits dans Esquisson. Le premier, c'est une sorte de production illustrative de l'effet de distance. Vous voyez donc dans la petite axonométrie là, le point d'écoute c'est le E. Et donc il y a différentes sources qui sont placées, plus ou moins proches. On est au cinquième étage, je crois. Cinquième étage, il y a une télé dans l'appartement, des gens qui mangent sur une terrasse, etc. Et donc là c'est vraiment ça n'a pas volonté d'être réaliste, c'est plutôt illustratif de cet effet de distance, des différentes couches, le proche et le lointain qu'on peut entendre. Alors, est-ce qu'on va l'entendre ? Oh, j'ai coupé très vite parce que là c'est vraiment, c'est pas une situation réelle. L'idée c'est que vous voyez, on a, alors moi de mon côté c'est très grave, je sais pas pour vous, mais c'est peut-être ce que je fais derrière. Mais on a donc ce fond qui est en bas, là, on a ce boulevard qui passe assez proche, mais quand même pas dans le bâtiment. Et puis on entend on entend des gens qui discutent en dessous. Et puis il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, ou qu'on ne sait pas trop qui met la table. Voilà. Et puis il y a une sorte de poste de radio ou de télé qui est allumée vraiment juste à côté. Et donc du coup ça crée des plans comme ça, qui sont à la fois à distance par intensité, à la fois par distance par filtrage, et puis par spatialisation. Un autre exemple, c'est Là, on inverse la perspective. Donc là, encore aussi, produit avec Esquisson. Donc je fais deux productions, on va dire, virtuelles. Et puis après, on va écouter des vraies prises de son. On inverse la perspective. Cette fois, on est à légère distance des sons domestiques. C'est-à-dire qu'on se trouve dans le cœur d'îlot. Et on va écouter ce qui se passe dans le cœur d'îlot. Et en fait, les sons domestiques, on les entend un peu loin. C'est une télé qui est allumée, etc. Et là encore, on distingue les différentes distances sonores avec l'avenue, etc. Ça, c'est beaucoup moins fort. C'était beaucoup moins fort, donc ça fait un peu des sauts de volume, je suis désolé, mais donc là on entendait à la fois les enfants qui jouent dans le cœur d'îlot, en même temps très peu, très masqué, parce qu'à la fois, comme je vous disais, il y a les effets de masque des bâtiments, mais il y a c'est la circulation qui est un petit peu au loin, et puis normalement on entend des gens qui parlent sur un balcon, et puis des gens qui écoutent la télé un petit peu plus loin là aussi. Donc là aussi on a différents plans qui se dessinent. Donc volontairement les productions... les productions dans l'outil, elles sont assez, on va dire, génériques. L'idée, c'est justement pas d'illustrer des situations caricaturales, mais d'être dans du son quotidien, quoi, et d'essayer de comprendre. Parce que là, on le fait pas en direct, mais l'intérêt, c'est qu'on peut manipuler. Donc en fait, on n'a pas besoin de grands écarts pour comprendre cet effet de distance, parce qu'en fait, en manipulant tout de suite, si vous déplacez la personne qui écoute sa télé, vous la mettez tout d'un coup au cinquième étage, et ben, ça change complètement le rapport avec ce son domestique-là. Après, là, les sons que j'ai choisi de vous faire écouter pour illustrer cet effet de distance, vraiment que cette fois j'ai enregistré dans la vraie vie, on va dire, ils sont un peu plus caricaturaux, parce que du coup, là, on ne peut pas transformer. Donc on a vraiment des effets de distance un peu plus marqués. Le premier, alors j'ai longtemps hésité à vous mettre des images, mais je ne savais pas trop s'il fallait que je mette des images ou pas. J'ai finalement fait le choix de mettre des images, donc bon, vous ne pouvez pas, c'est pas surprise. Le premier, on est donc dans la cité universitaire du Rabault, qui est sur la colline de la Bastille à Grenoble. Ça doit être en 2012 ou 2013, je pense. Et bon, je vous laisse écouter. Là, on est donc, je vous disais, c'était une histoire du Rabault. S'il y a quelqu'un qui joue du saxophone, on ne sait pas trop où, sans doute dans un des bâtiments, à la fenêtre ouverte, voilà, on ne sait pas trop où il est, c'est assez difficile de le localiser, parce que voilà, il y a toutes ces fenêtres, et donc on ne sait pas trop de quelle fenêtre ça vient. Et puis il y a ce drone urbain, alors un peu filtré, donc très plutôt assez aigu parce qu'on est très loin, et donc on a ce filtrage par la végétation, etc. Mais le rapport entre les couches, il est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tendant l'oreille, donc on a ces deux gros marqueurs là, le saxophone, et puis ce drone urbain qui, ça, on ne sait pas trop si c'est une rivière, si c'est une route, voilà cette sorte de son un peu, ce bruit blanc là. Et puis en fait, au milieu de tout ça, alors après un peu plus loin, ça devient plus marqué parce qu'après on a les cloches, etc. Donc j'ai enlevé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a la circulation. On n'a pas que les. On a d'autres choses qui se passent dans la circulation. On a des klaxons en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait, il y a des petites impulsions comme ça, des petits sons de klaxons, et donc on les sent vraiment venir vraiment du lointain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prise là, ce que je trouve assez beau, c'est qu'en fait on a l'impression qu'il joue avec le saxophone. Des fois il s'arrête, on a un coup de klaxon, après ça repart, etc. Et on est dans des plans qui sont vraiment très très loin les uns des autres. Et donc voilà, on est complètement projeté dans la ville et en même temps on est complètement hyper localisé par ce saxophone qui est là, qui est présent, qui est peut-être à 10 mètres de nous. Et puis il y a aussi des gens qui passent, on entend un petit peu moins des gens, des bruits de pas. Donc ça aussi, ça localise très fortement la prise. Ce qui est intéressant à cet endroit-là aussi, c'est qu'on a un parapet. Donc du coup, plus on s'approche du parapet ou plus on s'en éloigne, et bien plus on va pouvoir gérer de manière analogique avec notre corps le filtrage de la ville. Et donc petit à petit, on va pouvoir choisir aussi la balance sonore entre ce saxophone, et éventuellement les oiseaux qu'on n'entend pas là, mais qu'on entend un peu plus tard dans la prise, les gens qui passent, qui discutent, et puis la ville, quoi. Et puis après, il y a les sirènes, il y a les cloches, etc. Pour changer un petit peu de cadre, je voulais vous faire écouter aussi deux prises qui sont un peu liées l'une à l'autre. La première, deux sons qui sont du coup là sont pas en milieu urbain, sont en milieu rural. Donc ça doit être 2021. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve pas mal de choses, à la fois dans les trois catégories. Là, si vous voyez, on reprend les trois catégories qu'on a vues, acoustique, sociale et spatiale. Alors, je ne vais pas présumer des caractérisations sociales, mais en tout cas, on pourrait se projeter dans une sorte d'échappement. On peut aussi avoir un rapport à la distance qui va être à la fois imaginaire et à la fois réel. Ce sont de l'orage. On s'en sent proche, ce qui fait peur, etc. Vous voyez, il y a quand même tout un imaginaire qui se construit autour de ça. Les oiseaux, évidemment, c'est toujours un marqueur positif. Donc voilà. Le côté acoustique appliqué, il est clair. On a une vallée, vous voyez sur l'image, on a une vallée en contrebas. Là. Au tout début de la prise, je ne sais pas si vous avez fait attention, on entend le train qui klaxonne. Lui, il passe dans la vallée, donc vraiment, on l'entend très bien. Puis sur la fin, il y a cette cloche qui est un petit peu plus proche, mais qui en fait résonne dans les deux vallons. Et puis, voilà, dans les rapports de distance, on va jusqu'à l'abeille qui vient frôler le micro. À un moment, on entend quasiment l'aile qui touche le micro. Donc on entend vraiment ces différents plans. Et puis, dans la question spatiale, morphologique, là, c'est des topographies, donc c'est des effets de masse. Et puis aussi des questions climatiques.
parce qu'on a l'orage qui arrive, donc on a un son qui est vraiment énormément porté, qui arrive vers nous. Et donc voilà, on peut redécouper ces trois choses-là. La prise d'après, que je vais vous faire écouter, qui est au même endroit, un tout petit peu plus tard. Là-dessus. Donc juste la dernière prise, c'était intéressant parce que là, l'espace se rétrécit énormément en fait. Et on est exactement au même endroit, hein, mais on a tellement d'intensité, on a tellement de densité sonore, mais tout au même endroit, que du coup, même ces coups de tonnerre qui bon, sont un peu plus proches, mais il y en a quand même un peu au loin, on ne les sent pas aussi loin qu'avant. Hein. Il y a sans doute des explications météorologiques, climatiques, que je maîtrise moins, mais il y a aussi une explication sonore qui est qu'on est immergé dans cette densité là. Moi ça me fait bizarre, alors je sais pas vous, mais moi ça me fait bizarre, j'avais vraiment l'impression qu'il pleuvait au-dessus de moi. Et donc cet effet de rétrécissement de l'espace, alors que vous voyez l'image, on est au même endroit, c'est très très vaste, c'est très très grand, on n'est pas enfermé du tout. Voilà, et puis j'ai pas le temps pour la dernière prise, mais si vous avez des questions avant la pause, je peux répondre à des questions ou des réflexions, parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis. Oui.
Après, c'était par rapport à comment est-ce que tu as fait ta prise de son sous la pluie et... Est-ce que tu as filmé et comment, enfin, où est-ce que tu as placé ton micro pour pouvoir enregistrer sans te prendre la tête et sans que ça s'entende comme ça?
Alors, il y a deux astuces. La première astuce, c'est que c'était un piège à son. Donc, j'étais complètement sec. C'est une petite boîte.
Tu peux dire ce que c'est qu'un piège à
ouais, son. Ouais. C'est une petite boîte qui est étanche, avec prise stéréo, qu'on peut placer, accrocher où on veut. C'est une petite boîte qui fait à peu près cette taille-là. Hein. C'est deux smartphones quoi, en taille. Et puis, ça se paramètre. Donc, on peut choisir d'enregistrer pendant 1 heure, 24 heures, 1 mois, etc. Il y a une carte SD qui prend toutes les prises. Et donc, c'est étanche, donc c'est plutôt pratique. Deuxième astuce, c'est que je ne l'ai pas mis comme ça en plein champ. Je l'ai quand même mis sous un arbre pour que, du coup, ça a deux effets. Ça protège un petit peu des gouttes directes parce qu'il y a quelques gouttes directes sur les micros. Et j'ai forcément pas mis ces moments-là. Je vous ai forcément pas mis ces moments-là parce que ça, ça sature dans le. Enfin, voilà, c'est inexploitable. Donc j'ai déjà coupé dans la prise le bon moment, etc. Et puis on peut, s'il y a un moment où une goutte tombe, bah, on peut faire un fondu enchaîné, l'enlever. Quoi. Et aussi ça renforce cet effet de pluie. Parce qu'en fait les gouttes, et après c'est carrément de la grêle, tombent sur les feuilles de l'arbre. Et donc on entend c'est la percussion. De cette grêle, c'est les sons non vivants quoi. C'est du non vivant, c'est la percussion de cette grêle sur les feuilles, qui est beaucoup plus forte en termes sonores que sur le sol en fait. À moins d'avoir un sol en béton, mais là, c'est pas le cas. Ouais.
Est-ce que l'outil Esquisson il prend en compte les effets de réverbération sur
Oui. Attends, excuse-moi. Ouais. Il prend en compte les effets de réverbération avec une approximation, c'est-à-dire que c'est pas un outil de simulation. Il va pas faire tous les calculs acoustiques qu'un outil de bureau d'études. Pour une simple et bonne raison, c'est que le but c'est d'écouter en direct, comme je vous le disais, donc écouter en direct les modifications, etc. Mais il y a quand même tout un calcul simplifié des morphologies, et puis on peut aussi informer les matérialités de ces morphologies pour avoir par exemple un espace très minéral qui va du coup faire une réverbération beaucoup plus grande qu'un espace qui serait très végétal, etc. Donc oui, ça prend bien en compte la caractéristique physique du milieu pour générer de la réverbération.
Oui, justement, à propos de l'esquisson, quel modèle de propagation il utilise ?
Alors, il utilise du lancer de rayon, en fait. C'est lancer de rayon, donc en fait, la source est positionnée et il y a un certain nombre de rayons, selon la précision qu'on veut donner et puis le temps qu'on est prêt à laisser au calcul, il y a un certain nombre de rayons qui est projeté et ensuite on évalue ce qui se passe sur ces rayons. Donc c'est vraiment le plus simple possible, quoi. Ouais. Le plus simple pour justement aller vite, quoi.
Je voulais savoir si Esquisson, ça prend en compte tout le rapport subjectif qu'on a au son. Par exemple, je sais pas, on est fatigué le matin, ou on est énervé, ou je sais pas, il y a tous ces trucs-là qui modifient un peu notre perception du son.
Alors, indirectement, on pourrait dire que oui. Mais parce qu'en fait, c'est nous, c'est vous qui écoutez, quoi. Donc en écoutant, on écoute dans l'état dans lequel on est. Mais il n'y a pas de possibilité d'ajouter un petit filtrage en disant je suis fatigué, je suis énervé. Il n'y a pas toute cette complexité-là. En fait, c'est une très bonne question parce qu'on pourrait se dire on fait une étude, on fait écouter des fragments. Et puis on demande aux gens, a priori, on leur donne même la main sur les outils pour transformer les sons, et selon les états dans lesquels ils sont, on leur demande de transformer les sons pour qu'ils correspondent à comment ils les entendent, ou alors on leur demande de décrire comment ils les entendent. Et puis après, on pourrait avoir un petit module qui fait qu'on peut sélectionner l'humeur, etc. Ou le moment. L'humeur ou l'expérience qu'on peut avoir par rapport au sonore, etc. Mais le problème de faire ça, c'est que du coup on retombe dans le travers de cataloguer les choses. Donc ça peut être une solution pour effectivement donner à entendre des modes d'écoute. Le problème, c'est que ça ferme les entre-deux, quoi. Ça ferme entre le moment où t'es fatigué et le moment où t'es super heureux, ou l'inverse, y a des entre-deux, et puis on n'est pas tous pareils, etc., etc. Donc l'idée, c'était justement de partir du contre-pied de tout ça, à la fois de l'approche cognitiviste et puis de l'approche, science et technique, en les mobilisant, hein, c'est mobilisé comme contenu, comme ressource, mais c'est pas donné comme ressource à la personne, à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on prend le contre-pied de tout ça et on dit, l'utilisateur, il va juste écouter. Et en fait, c'est en écoutant qu'on va pouvoir plus ou moins mobiliser ces choses-là.
Votre question me fait penser à une expérience qui a été faite sur la lumière et le soleil dans la très belle maison de Van Coulas à Bordeaux, une grande terrasse presque à 360 degrés. Et un cinéaste a fait un film où toutes les 10 minutes du lever du soleil, enfin 10 minutes à chaque début d'heure, toutes les 10 minutes, du lever du soleil au coucher du soleil, il faisait jouer la même scène à deux acteurs. Alors évidemment, plus le temps passe, plus l'heure change. Donc le soleil, la lumière est différente. Et aussi plus eux sont fatigués de la journée de faire ça. Et donc on voit énormément de choses dans cette variation à la fois atmosphérique et en même temps des corps qui, entre le matin et le soir, changent complètement. Comme il est déjà assez tard, et surtout je voudrais dire remercier Théo, et Théo sera avec nous tous les jours pour les travaux, et préciser ce qu'il n'a pas dit, mais qu'il a eu le prix de l'innovation de la thèse de l'UGA l'année passée, pour son travail de thèse. Je crois qu'il reste dans la salle du café. café, des choses comme ça.